Nous sommes jeudi le 14 août, il est 21h et des petits crépitements. Vous êtes sur Radio Canu, bienvenue dans le nerf de la game.
Ah.
Voilà, non mais voilà, il fallait un moment où Fallout me trahisse, et ça a été aujourd'hui.
Écoute, je tiens le bouton, je tiens le câble, on s'entend.
Et bon, on trouvera un autre moyen pour mettre du son les prochaines fois. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Écoute, ça va pas mal. C'est fini les vacances, mais on est bien.
Je vais te libérer de ta tâche qui est de tenir ce téléphone. Tu vas pouvoir le lâcher.
Écoute, je pense que c'est l'indicable, mais pas de moi. Moi, je tiens fort.
Ah non, mais je vois ça. Romain qui, quand il ne réalise pas cette émission, stream très régulièrement sur Twitch, sur sa chaîne Ruven avec un underscore à la fin. Notamment d'habitude le mercredi, mais aujourd'hui le jeudi. À 13h dans l'émission À vos souhaits, où il présente les nouveaux titres annoncés sur PC en général et sur Steam en particulier.
Tout à fait, on a fait une longue émission tout à l'heure, on a parlé de plein de trucs, parce qu'on fait un petit peu d'actu aussi, mais un peu plus d'actu des jeux, alors que d'habitude, effectivement, ici dans cette émission, on parle un peu plus de l'industrie. Même si ce soir, ça va être une émission un peu plus centrée sur les jeux, du coup,
oui.
Parce que ça fait du bien un petit peu de temps en temps de ne pas parler que des vicissitudes de l'industrie, mais aussi bah, de pourquoi on l'aime, l'industrie, parce qu'ils font des jeux des fois et on aime y jouer.
Mais industrie qui va formidablement bien.
De mieux en mieux. Voilà. Hein, de mieux en mieux. Demandons à Arcanion, pardon, mais demandons à Tower Fight. Non, attends, laisse-moi réfléchir.
Pendant que tu réfléchis, je vais présenter la troisième personne qui est dans ce studio avec nous.
Absolument. La caution. Qu'on veut dire compétence. Compétente dans le domaine dont on est censé parler, le jeu vidéo.
La personne qui fait que cette émission sera écoutable globalement. Bonsoir, Bettina.
Bonsoir, j'ai un peu l'impression quand même.
Bettina, instigatrice de l'événement Indie Game Lyon qui prépare sa 7e édition.
Oui, pas encore, mais presque.
Ouais. Mais si, elle est prête.
Non, ah là, c'est dans moins de 9 mois.
Oui.
elle est totalement prête. Non, pas du tout. Bettina, dont le statut d'invité annuel a évolué en celui d'intervenante à part entière pour cette saison.
Et dont on espère effectivement la participation la plus régulière possible dans la mesure des disponibilités de chacun.
Allez, stylé, je suis contente.
Allez, elle pourra s'appuyer sur sa connaissance du milieu pour, entre autres, parler des challenges auxquels font face les créateurs de jeux vidéo indépendants. On lui sait la bienvenue. En tout cas,
absolument.
Moi, je lui sais de la bienvenue. Je ne sais pas si Romain le fait. Parce
je
que,
viens de voilà. le faire, enfin.
Et oui, merci.
Et on voilà, est très, très heureux de te recevoir.
J'espère,
très encore aujourd'hui.
Très heureux de te recevoir aussi. Et on va faire en sorte que cette émission soit la tienne.
Waouh. Mais c'est vrai que du coup, j'ai un regard beaucoup plus local et plus individuel parce que je connais directement un certain nombre de développeurs développeuses par l'intermédiaire de Indie Game Lyon entre autres. Donc voilà, c'est je me tiens au courant de ce qui se passe dans l'industrie de manière générale, mais au final je suis surtout au courant de ce qui se passe à l'échelle locale et indé.
Et ben on va en reparler très rapidement. Parce que, qu'y a-t-il au sommaire cette semaine du nerf de la game ? Alors, notre slogan, c'est « Gros sous, lutte sociale et jeux vidéo indé ». Et c'est plutôt du côté de ce dernier qu'on va s'orienter aujourd'hui, car nous allons parler de deux événements, plutôt indés ayant eu lieu dans l'espace de ces deux dernières semaines, à savoir le début de festival et le Wholesome Game Célébration. On va parler un tout petit peu de 44 000 événements Steam qui a lieu en ce même temps. On y a assisté, on a regardé, on a joué, on va vous raconter. Mais d'abord, on va faire le tour des news récentes des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Oui, j'avais envie de parler un petit peu justement de nos devs locaux, et pour pas que ça dure 1000 ans non plus, parce qu'on a plein de choses à se raconter après, je vais juste vous donner des news de deux devs. Le premier, c'est Le Poulet, donc oui, c'est comme ça qu'il se fait appeler, qui a sorti récemment le jeu World Atro, donc il est sorti le 23 juin sur Steam. Il a été édité par Abiding Bridge. C'est très dur à dire. On en reparlera, ce choix de nom. Non, pas du tout. C'est un éditeur que parfois on pense lyonnais, parce que justement ils éditent pas mal de jeux de la région, mais en fait pas du tout, ils sont basés à Lille, mais de toute façon ça ne change rien. Donc voilà, ils ont édité World Atro. Il y a eu un joli démarrage sur ce jeu, donc il est sorti sur Steam.
En partie à cause de Ruvon.
Alors, c'est vrai que le jour même, je l'ai acheté. Je l'ai streamé deux fois. Ah. Donc, une fois pendant quasiment une heure et demie, parce que je ne voulais pas lâcher l'antenne tant que je n'avais pas fini. Il me restait des vies. Donc, je joue encore. Et effectivement, c'est une sacrée réussite de mon point de vue en tant que, oui. En tant que jeu.
Oui, il est très cool. Donc, je suis hyper contente pour lui. Il a réussi à aller jusqu'au bout de son développement. Donc, ça, il faut le souligner aussi. Il y a beaucoup de devs qui travaillent sur des jeux et qui souvent n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Donc, déjà, bravo pour ça. Et il a été streamé par un certain nombre de personnes, et dont des streamers et streameuses un peu plus connus, par exemple.
Plus connus que moi, tu veux dire ?
Non, ah, pardon. Ça n'existe pas, ça. Personne.
Par exemple, pour les très connus, il y a eu Mister MV, yes, Mythos, cool. Chicheyu, Étoile, ouais. Tout ça. Donc,
ah
ça,
oui, Chicheyu, ouais. Étoile, c'est du costaud. Hein.
Bah, déjà MV. Ouais.
Bah, MV, j'ai cité en premier.
MV, Mythos, voilà. Bon, voilà. Donc, non, voilà. Carrément, c'est cool pour lui. Quoi.
C'est notamment grâce à son éditeur, justement. Donc, c'est cool, ça fait pas mal de visibilité, ça explique aussi son joli démarrage. J'ai pas de news sur son prochain jeu parce qu'il va être très prochainement papa, si ce n'est pas déjà fait. Sa compagne va accoucher incessamment sous peu. Donc voilà.
Pardon.
Mais c'est que des très bonnes nouvelles, en tout cas, on est très content pour lui.
Oui.
Exact. Bravo pour
et
les
donc,
deux.
Quand même, pour un petit mot sur World Atro, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre de balatro du Scrabble. Il faut faire un maximum de points en jouant avec des lettres pour combiner des mots. Il est à 10€ d'ailleurs. Voilà. Et sinon, autre dev dont je voulais parler, c'est Kalinarm, qui a développé le jeu Linkito et qui travaille sur un nouveau jeu.
D'accord.
Donc Linkito, c'est un jeu de réflexion, de puzzle, de circuit logique, électrique. Et là, il travaille donc sur un nouveau jeu qui s'appelle Kaz.
Linkito est sorti cette année, hein, c'est ça ?
Linkito est sorti
il y a
un petit moment.
Même l'année dernière ?
Ouais. Oui, il a fait notamment une conférence post-mortem cette année.
C'est un post-mortem, c'est ça.
Ouais.
C'est pour ça, parce que j'y pensais à cette année Linkito, mais c'est parce qu'il y a eu un post-mortem, le post-mortem. Ouais,
exactement. Donc oui, ça doit faire un peu plus d'un an qu'il est sorti. Et donc là, son nouveau jeu, donc Kaz, K-A-Z, qui n'a rien à voir, qui est l'exact opposé, c'est un roguelike frénétique qui repose sur la dextérité, les réflexes, un jeu ultra rapide. Actuellement, il y a sa démo qui est dispo sur Steam, si vous avez envie de tester. Et puis, je pense qu'on peut le suivre sur les réseaux sociaux. Il donne des petites infos sur là où il en est de son développement. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a des cartes dans son rogue ?
Non, c'est des cases.
Parfait. Alors, donc, tu peux me redonner le nom, s'il te plaît ?
Cases. C'était le jeu de mots.
Oui, non, j'ai un petit problème avec les roguelite deck builder.
Et avec l'humour et les jeux de mots, il a un problème aussi.
J'ai plein de problèmes.
Pour le coup, en tout cas, c'est pas du tout un deck builder. C'est vraiment un jeu de réflexe et de. Il faut jouer vite. Voilà.
Je l'ai vu passer effectivement il y a quelques temps, celui-ci. Ouais. Ok.
Et sinon, là, c'est pas une news en particulier, c'est juste que je sais qu'il y a pas mal de devs de la région qui vont à la Gamescom, qui sont en train de s'y préparer, puisqu'elle a lieu du 20 au 24 août, donc c'est très bientôt. C'est un événement beaucoup plus business, où les solo devs et les studios cherchent à contacter des éditeurs et des publishers pour leurs jeux qu'ils sont en train de développer. Donc là, j'ai pas de news, mais peut-être qu'il y en aura après ça.
Effectivement, la Gamescom, on essaiera. On est sûr qu'on en reparlera, mais après, je sais pas si c'est en août ou si c'est début septembre qu'on en reparlera.
Ce sera en plein milieu de la semaine prochaine, en fait. La cérémonie d'ouverture, c'est le mardi soir. Jusqu'au dimanche ?
Parce qu'en fait...
24. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. En fait, d'un point de vue suivi, quand on n'est pas sur place, on va suivre la fameuse cérémonie d'ouverture qui est le Geoff Show numéro 2.
C'est ça, le Geoff Kelly Show, le numéro 2 avant le numéro 3 qui
avant
est sur les Game Awards à la fin de l'année.
Avant le vrai Geoff Show.
Oui, voilà, celui... est-ce que le premier n'est pas plus le sien déjà ?
Parce que tu as le Geoff Show, tu as le mini Geoff Show en août... Et tu as le Big Geoff Show.
Voilà.
En costard.
Celui où il te répète une troisième fois que, oulala, l'industrie, elle va mal, mais heureusement qu'il y a les indés et leur dev solo. Bref.
Mais c'est vrai qu'après la Gamescom, j'aurais peut-être des petites news un peu croustillantes, justement, parce que voilà, c'est le moment où les devs cherchent des éditeurs, des publishers, et on sait que ça peut changer totalement un scope de décrocher un éditeur. Donc voilà, j'aurais peut-être des choses à raconter.
C'est ça, en fait, qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de Feu le 3 et de la Gamescom, c'est qu'avant tout, c'était des rendez-vous professionnels où soit les distributeurs montraient en fait au magasin voici les jeux qui vont arriver que vous allez pouvoir mettre sur vos étals de distribution ces prochaines années, mais c'était aussi un enjeu pour les développeurs en disant regardez mon super jeu, je vais pouvoir trouver un éditeur et un distributeur pour ça. Et la Gamescom s'est fait une spécialité pour en tout cas les jeux européens et les jeux AA de manière générale, simple A ou AA on va dire, d'être cette espèce de grand marché entre les éditeurs et les développeurs.
Alors, une relation beaucoup plus directe effectivement que dans d'autres shows qui pouvaient exister, qui existent toujours d'ailleurs à différents endroits. On évoquait anciennement le 3, il y a les PAX, il y a les trucs en Amérique du Sud, il y en a un peu partout.
Bah, même l'Asie, la Paris Games Week, ou choses comme ça, qui a un rapport très différent par rapport à ce qu'elle veut faire.
Et effectivement, historiquement, la Gamescom a beaucoup plus eu ce rôle de relation entre les indés en fait, et les éditeurs.
Ouais, y a totalement ce truc de business où il y a des prises de rendez-vous qui sont en amont, comme au GameCamp, en fait, où les créateurs, créatrices de jeux prennent des rendez-vous avec des éditeurs des semaines et des mois en avance pour être sûr d'avoir plein de rendez-vous pendant l'événement.
Et c'est pour ça que j'annonce qu'un des objectifs de cette émission, quand on l'a créée, c'est vrai, c'est de se dire un jour on ira à la Gamescom.
Allez.
Et ça fait 3 ans qu'on n'y arrive pas.
Alors non, ça fait 3 ans qu'on n'a pas essayé, on va être clair.
Ça fait 3 ans qu'on n'a pas encore essayé, effectivement, de se lancer.
Mais je trouve que c'est un objectif qui est sympa, parce que très honnêtement, entre le côté c'est en Europe et par rapport aux thématiques de cette émission-là, où avec les rapports entre les éditeurs, les jeux et tout ça, je pense que c'est vraiment l'endroit qui correspond le plus à...
Ce serait très cool. Après, c'est quand même un coup d'aller jusqu'à Cologne.
Ah oui, non, mais c'est pour
sinon,
ça.
Il y a GameCamp aussi. Hein.
Et puis un coup, va dire même soi-même, aller en Allemagne.
Ouais.
C'est quand même...
Alors, on n'a qu'une heure d'émission, donc on ne va pas partir sur...
La grandeur de l'Allemagne. Non, t'as déjà essayé. Ça s'est très mal fini.
Les bienfaits d'aller en Allemagne.
Le GameCamp, ça, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait avoir autant d'intérêt, bien sûr. Bien sûr.
On va parler en fait des différents des événements Steam.
Et d'abord, on va remercier évidemment Bettina pour autant d'informations finalement.
Ah oui, donc t'as décidé d'être poli. Ok, d'accord.
Sachez que en plus j'ai fait le tri sur tout ce que j'avais à raconter et en fait je me suis dit mais garde-en sous le coude pour les prochaines émissions.
Ah.
Donc j'ai plein de trucs à dire.
Oui, alors d'ailleurs on l'a pas.
Comment vendre l'émission pour les fois d'après
Effectivement, Bettina. C'est vrai que tes interventions et nos interventions aujourd'hui sont globalement des histoires de tri.
Oui,
ouais, complètement. Il a fallu choisir. Parce que on commence à se connaître, Xavier et moi, on parle pas mal, tous les deux, surtout lui. Mais à trois, et forcément, on s'est déjà rendu compte effectivement qu'on avait rarement le temps de dire tout ce qu'on avait à dire, donc on a essayé de se laisser du temps.
Voilà.
Parce que le but du jeu, c'est aussi que tout le monde ait un minimum le temps de s'exprimer et de dire tout ce qu'il a envie de dire. Donc...
Parlons rapidement des événements Steam. En fait, on va pas faire un récap de tous les événements Steam.
Bah, surtout pas ceux qui sont en cours cette semaine. Oui.
Voilà, parce qu'il y en a 1000 fois trop. Mais le principe, c'est que n'importe quel éditeur ou n'importe quel tiers peut créer un événement Steam pendant une semaine où il va mettre en avant des jeux de son choix et souvent avoir un angle marketing éditorial pour dire voici, ce sont tel type de jeu ou tel jeu ou selon tel critère que je vais vouloir mettre en avant des jeux. En général, ils choisissent des critères pour mettre en avant leurs propres jeux ou les jeux qui les intéressent, quand ce sont des éditeurs et quand ce sont des tiers avec
un thème,
ça va être un thème, etc. Et le truc, c'est qu'il y en a pendant toute l'année, mais il y en a en particulier pendant l'été. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la place, il y a moins de sorties de gros triple A, en général en été. Il y a moins aussi d'événements physiques, à part les PAX, Mais c'est début juillet les PAX, hein, en général. Hein. Enfin, oui, les PAX, c'est toute l'année. Hein,
oui, mais, voilà, mais ça déborde souvent un petit peu sur début août. Mais, ouais,
mais clairement, entre mi-juillet et mi-août, globalement, il n'y a rien, jusqu'à la Gamescom qui relance, en fait.
C'est ça. Et la Gamescom étant la semaine prochaine, voilà. C'est le moment, en fait, d'occuper un minimum l'espace.
Exactement.
Donc, pour beaucoup. Donc, il y a effectivement des événements là qui se sont terminés, certains qui se terminent là maintenant, dont on va parler.
Voilà.
Et d'autres qui sont en cours.
Qui sont en cours
et puis qui vont commencer là maintenant pour la semaine prochaine. Enfin, bref.
C'est ça, parce que entre voilà, on a parlé 4X, Tiny Games, etc. etc.
Oui, oui, Tiny Teams.
Tiny Teams, pardon. Tiny Teams, ouais. Je sais qu'il y a, il y a aussi un événement indonésien aussi que j'avais vu passer.
Et qui a commencé là aussi très récemment. Ouais, l'isométrique Sail avec des jeux, des RPG en vue isométrique. Voilà, comme on en a beaucoup du coup connu, même des jeux tactiques, etc. Enfin, bref.
Les deux auxquels on s'est intéressé la semaine dernière, c'est plutôt des thématiques qui nous, en tout cas dans l'émission, qui nous tiennent un peu à cœur. Un pour un aspect plus découverte, mm-hmm. et l'autre pour une thématique globale. Le premier dont on va parler, c'est le début de festival, qui a eu lieu du 7 au 11 août. C'est un festival qui a été créé par une boîte turque qui s'appelle GameDev.ist, IST pour Istanbul. Vu que c'est une boîte qui vient d'Istanbul, dont, à titre personnel, je n'avais jamais entendu parler, et qui a eu l'idée de faire un événement consacré au premier jeu. Pour apparaître, il suffisait de présenter un jeu sorti en 2024, en 2025 ou à venir, et ce jeu devait être le premier projet du studio ou du solo dev en question.
Okay.
C'était les seuls critères. Forcément, avec des critères comme ça, il y a eu beaucoup
de participation.
Et parmi les jeux déjà sortis, on retrouve des têtes très connues comme Blueprints, hein, ce jeu d'énigmes qui a retourné la tête de tous ceux qui ont eu le malheur de mettre un doigt dans l'engrenage. Mm-hmm. The Operator, un excellent jeu d'enquête en solo dev.
Français.
Oui, exact. Pacific Drive, un jeu de survie en bagnole, Survival Craft en bagnole. Et celui qui, selon toute vraisemblance, recevra une statuette de la part de Geoff Keighley en fin d'année, Clair Obscur, Expédition 33.
Et peut-être même d'Emmanuel Macron. Mais ça, c'est un autre problème.
Le Pégase. Et je pense qu'il est pour lui aussi.
Oh, bah, je pense que c'est écrit, oui.
Oui,
à ce niveau-là.
Ah, oui, je pense que c'est donné.
Et c'est une vraie aussi réussite commerciale, en plus d'être un succès critique.
Et de communication globale aussi. Hein,
oui, tout à fait. Ils ont bien géré certains écueils.
En termes de reach, c'est.
Ah, complètement.
C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, hein, pour un jeu comme ça.
Mais du coup, ils en font partie, effectivement, en tant que premier jeu du studio Sandfall.
C'est le premier jeu, exactement. Et donc, de notre côté, on a extrait deux jeux chacun.
Ça a été dur, dur.
Et rendez-vous dans 40 minutes, quand on aura fini, de vous parler de deux jeux chacun.
Pour les mettre en avant, et Vitignan, on commence par toi.
Ok, est-ce que je peux enchaîner les deux? Parce que le premier va peut-être aller un peu vite.
Ben, on verra.
Ok.
Si tu dois compter sur la bienveillance de Xavier, on n'est pas rendu.
Voilà, on verra.
Non, je voulais commencer par parler de Eternal Strands. Au final, je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'il est dans mon backlog depuis qu'il est sorti et je n'y ai pas joué, donc je n'ai pas énormément de choses à dire à son sujet. C'est un jeu aventure à la troisième personne. On joue avec des armes, mais surtout avec beaucoup de magie. On peut utiliser les éléments de l'environnement pour se battre, etc. Donc il a l'air d'y avoir plein de choses fun et créatives à faire. On a des pouvoirs de flamme, de glace et de télékinésie. Les boss, en fait, c'est des géants sur lesquels on peut grimper dessus, hein, avec un petit côté Shadow of the Colossus, donc ça fait très envie. Il est à 40€ si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, moi j'ai très envie d'y jouer. Il me fait de l'œil depuis qu'il est sorti.
Avec aussi, je crois qu'il y a beaucoup de choses sur les affinités élémentaires, parce que tu parlais de flammes, etc.
Ouais, oui.
Il y a beaucoup de choses sur les affinités élémentaires qui vont dynamiser beaucoup les combats.
C'est ce qu'ils disaient en tout cas dans les trailers.
Voilà.
Voilà, donc j'avais dit que c'était rapide. Du coup, si vous le permettez, j'enchaîne.
Mais j'adore que tu me vouvoies. Continue.
Et le deuxième... Insupportable. Le deuxième, c'est Threshold. J'ai envie de vous parler de Threshold.
Yes.
Justement parce que c'est un de nos devs locaux qui s'appelle Julien Éveillé, qui a notamment fait une conférence cette année à Indie Game Lyon. Je lui ai proposé de faire une conférence post-mortem justement sur tout le développement du jeu. Donc c'est une aventure à la première personne. En fait, on travaille à un poste frontière, donc une jonction entre deux pays. D'ailleurs, au début du jeu, on choisit quel pays, et ça a une incidence sur la chute de l'histoire, dont je ne révélerai rien du tout, évidemment. Notre job consiste en fait à veiller à ce que le train soit à l'heure, mais en fait, l'air est rare à cette altitude, il ne faut donc pas gâcher son souffle. Or, on doit souffler dans un sifflet pour faire en sorte que le train soit à l'heure. Pour ça, on a des canettes d'air qui nous aident justement à récupérer de l'air, mais c'est très particulier. Il y a une ambiance visuelle et sonore assez dérangeante, hyper bien foutue, justement avec ces histoires de Erkan. On ne doit pas courir, on ne doit d'ailleurs pas non plus regarder le train, en tout cas pas regarder ce qu'il y a dans le train. Il y a beaucoup de mystères, c'est pour ça que je ne dévoilerai absolument rien de tout ça, mais on comprend tout à la fin, je vous rassure. En tout cas, voilà, c'est une super expérience qui est assez courte, qui dure 2 heures. Le jeu est à 10 €. Et c'est hyper bien. Et si jamais vous regardez la conférence, parce que je suis en train de monter toutes les tables rondes et les conférences de Indie Gamelion, je vous préviens tout de suite, elle spoil tout le jeu. Donc faites le jeu d'abord.
Il y a une esthétique très PS1, non ?
Oui, exactement. Mmh. C'est ça. Mmh. Une espèce de vieille 3D, entre guillemets, moche, comme à l'époque.
Pixel art, un petit peu. Voilà.
Mmh. Oui, avec une vue un peu à la MGS, premier du nom.
Ouais.
Effectivement. Eh ben merci Bettina.
Juste Eternal Strands, on est d'accord, c'est le jeu du développeur de... Comment ? C'est le premier jeu d'un développeur assez connu qui a monté son propre studio à part de...
Je sais pas exactement, je ne suis pas allé chercher les noms.
Dans mon souvenir, que c'était un jeu Montpellier, hein, dans mon souvenir, donc que c'était parmi les évadés de Ubisoft, il me semble... Les évadés de BGE.
Ce qu'ils disent en présentant le jeu, c'est que c'est le premier jeu d'un studio dans lequel il y a beaucoup de vétérans de l'industrie. Mais je ne suis pas allé chercher les noms des gens. Donc
d'accord. Parce que pour moi, c'était un des gars de. Si je ne dis pas de bêtises, c'était pas un des gars de Dragon Age.
C'est possible, mais peut-être. Voilà. Je te laisse regarder si ça te va pendant que je présente un des jeux que j'ai retenu. Un des jeux que j'ai retenu, c'est un jeu qui s'appelle Service with a Shotgun. Qui est un jeu par un solo dev américain qui s'appelle Nolin Van Cycle et qui sortira fin 2025. Et en fait, on joue un nouvel employé d'une supérette. On est à la caisse, on reçoit des clients, on écoute leurs demandes, leurs doléances pour mieux servir et pour qu'ils puissent avoir les produits qu'ils veulent. Sauf qu'on est en plein apocalypse zombie. Et qu'il y a des zombies qui viennent continuellement attaquer les murs de l'enceinte du magasin.
Les zombies sont vraiment des chiants. Ouais.
Et que dans notre contrat, il est stipulé qu'on doit protéger les murs du magasin et y servir. Et d'ailleurs, dans le contrat, alors il y a une question de thune en plus. D'ailleurs, dans le contrat, c'est assez rigolo parce que le premier truc dans le contrat, c'est protéger les trucs du magasin, et le deuxième truc, c'est servir les clients. C'est d'abord les.
D'accord. Donc si pour protéger les murs du magasin, il faut donner les clients aux zombies, ça marche.
Mais le poste, c'est caissier.
Employé polyvalent, c'est pas ça qu'on dit.
Exactement.
On les connaît.
McDonald's Way of Life.
J'aurais dit n'importe quelle grande surface. Oui, ça marche aussi.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Je n'ai bossé que chez Sharequick. Quelle incroyable expérience. En fait, le truc, c'est que le challenge, c'est que l'arrivée des zombies ne s'interrompt jamais, même quand les clients sont en train de discuter avec toi. Donc, si les clients sont pas contents, ils dépensent pas d'argent, et l'argent, on en a besoin pour acheter des munitions, parce que le flingue pour buter les zombies, il a pas des munitions infinies.
Et ça fait pas partie de ton contrat, c'est pas un outil de travail.
C'est un avantage en assure.
Oui, mais pas les munitions, très bien. Ça me rappelle certains patrons que j'ai eu.
Donc on doit jongler en permanence en fait entre le service des clients et le dégommage de zombies et le passage au magasin pour alimenter et tout ça. Et en fait ça devient certes rapidement stressant, mais c'est vraiment très grisant. Et tu rajoutes à ça un humour noir, notamment dans les discussions avec les clients qui, on va dire, les crises existentielles d'un exterminateur, hein, clairement, ou quelqu'un qui aimerait bien bosser chez toi, et quand tu discutes avec les personnes, tu dis que la raison pour laquelle elle a été virée de son dernier boulot, c'est qu'elle a buté son patron. ça plus un pixel art qui rappelle les FPS en shareware du milieu des années 90. Et on a un jeu que j'ai trouvé très prometteur et très drôle. En tout cas, la démo m'a bien fait triper.
Ok. Bah, du coup, j'ai pris le temps de vérifier effectivement Yellow Brick Games, donc le studio qui développe Eternal Strength. Et effectivement, un des fondateurs du studio, c'est Mike Laidlaw.
Ah, Mike Laidlaw.
Mike Laidlaw, c'est donc le creative director sur les trois premiers Dragon Age, qui en 2018 est parti de chez BioWare.
BioWare, oui.
Pour aller chez Ubisoft Québec. Mmh. Voilà, il a bossé.
Donc, il y avait bien un lien avec Ubisoft.
Il y avait bien un lien avec Ubisoft. Ensuite, il est parti pour bosser vite fait sur Les Chevaliers de la Table Ronde, un jeu québécois qui est arrivé sur Steam récemment. Enfin, l'occasion d'en reparler. Je crois qu'il vient d'avoir un article dans Canard PC sur le sujet. Mmh. Et qui, en 2020, ensuite, donc, a créé son propre nouveau studio, Yellow Brick Games, pour créer Eternal Strength. Donc voilà, il y avait effectivement. Moi, j'avais surtout ce souvenir-là, en fait, du côté du studio. Qu'il avait cette.
J'ai dû confondre avec un autre jeu par rapport à Eternal Strength.
C'est possible, effectivement. Le nom n'est pas extrêmement original, je dirais. Enfin, il ne ressort pas forcément tant que ça du lot.
Quel est le premier jeu que tu veux nous présenter
Dans le début de festival.
Oui.
J'avais envie de parler de Bioner.
Je ne sais.
Vous connaissez pas
Pas du tout.
Vous connaissez Balatro?
Oui.
Bon. C'est un jeu qui prend le poker et qui rajoute plein de règles pour rendre le jeu complètement débilement complexe et rigolo et bref.
Et Bioner,
vous connaissez le pachinko ?
Oh non, c'est pas bien.
Ça a l'air un peu sale quand même.
Voilà, Bioner, donc c'est le jeu le studio s'appelle New Object et c'est édité par Rofuri. C'est un jeu qui est sorti en décembre 2024 dans lequel donc on va placer des objets sur, vous voyez le pachinko, donc c'est, on fait tomber un élément, donc souvent
une bille, et en fait il y a des clous.
Il y a des clous, voilà, des pics en fait, et qui vient en fait.
Et avec la gravité, ça descend.
Ça dévie la trajectoire de la pique.
Exactement, vers le bas.
Et selon où ça va, en fait, il y a différents scores.
Ouais, c'est un peu l'idée, sauf que là, bah, forcément, on va rajouter en fait des éléments. Divers et variés, des trucs qui font rebondir, des trucs qui font qui cassent le.
Si, je crois que je vois.
Voilà, avec ses couleurs extrêmement extrêmement vives. Il a vraiment un côté très très lumineux, enfin très très chargé au niveau couleurs. Et du coup, voilà, on fait tomber des billes, elles vont rebondir sur différents éléments qui vont nous rapporter des points. Et un petit peu comme un Balatro, on a un objectif de points à faire au bout d'un certain nombre de billes lancées. Si on réussit à atteindre ce score, on passe au niveau d'après. On nous donne des nouveaux éléments à ajouter donc on va dire à la forme, là où il y a les pics, parce que le premier, au début, c'est d'abord une pyramide, puis ensuite, tu peux avoir un truc forme hexagonale, enfin bref, il y a plusieurs niveaux, si tu veux, de trucs. Et en fait, c'est très très basique, parce que finalement, ta seule interaction avec le jeu, c'est choisir où est-ce que tu mets ces différents éléments qui vont interagir avec la bille que tu fais descendre, et d'où est-ce que tu la fais tomber. Tu choisis un petit peu à peu près où est-ce que tu l'as fait tomber, en fait. Et du coup, bah, c'est tous ces éléments, tu as beaucoup de synergie entre les objets, tu as des objets qui vont rapporter des points s'ils sont mis en lien avec d'autres. Par exemple, tu as des trucs qui vont faire tomber de la nourriture et si tu as qui va se cumuler à ta bille et si tu arrives jusqu'à genre une poêle, bah, tu fais cuire tous les éléments et ça te rapporte plus de points. Enfin,
ça a l'air très très intelligent comme jeu, dis donc.
Mais en fait, tu as vraiment cette logique de tu prends des décisions extrêmement limitées et derrière, bah, tu vas un peu croiser les doigts. Que les choses vont s'enchaîner comme tu le veux, mais en vrai il y a un côté extrêmement addictif quoi. Tu lances le truc et tu es là, vas-y, tombe là où je veux quoi. J'ai mis ce truc là pour que ça réagisse avec celui-là. Si tu pars de l'autre côté, ça m'intéresse pas. Tu vois, enfin, donc tu es impliqué dans le cheminement de la bille sans forcément pouvoir agir dessus.
Ça me fait penser à un jeu très intelligent qui s'appelait, j'imagine, parce qu'il doit plus être dispo, qui s'appelle Pain. Où en gros tu avais une personne que tu lançais en catapulte à partir d'une catapulte dans un décor en 3D et selon là où il atterrissait en fait tu peux avoir des multiplicateurs des trucs qui explosent sachant que tu pouvais placer des trucs avant, etc.
Il y a un poil cette logique là mais il rappelle plus évidemment Peglin parce que c'est
j'allais dire Peggle, mais okay.
Ouais, c'est un peu la même logique en fait, ouais. C'est du pachinko. C'est le principe du pachinko, donc voilà. Mais moi, j'avais passé beaucoup de temps sur la démo et j'ai connu des gens qui se sont lancés dans le truc, qui ont vraiment, vraiment accroché, parce qu'il est très satisfaisant. En fait, quand tout se passe comme tu veux, quand tu scores les points, les synergies entre les différents objets et tout, il y a vraiment un côté très, très satisfaisant au truc. Je crois que le jeu donc, est sorti en 2024, en décembre 2024. Il a toujours une démo, il vaut 12,34€, ce qui n'est pas énorme. Je pense qu'il a dû aussi passer avec des petites réductions dans les soldes. Vraiment, moi, c'est... Bon, faut aimer évidemment les jeux où tu lances un peu les dés en l'air et tu attends de voir comment ça va retomber. Moi, en tout cas, ça avait marché sur moi, sur ce côté-là. Et en plus de ça, la direction artistique extrêmement colorée m'avait plutôt plu, même si ça pique un peu les yeux par moment. Mais...
Tu peux rappeler le nom, s'il te plaît ?
Balionaire, B-A-2-L-I-O-N-A-I-R-E, du studio New Object, dont, si je ne dis pas de bêtises, c'était un peu le premier projet.
C'est le principe du début du festival, donc normalement,
oui.
C'est ça.
Oui,
non,
bien
premier...
sûr, évidemment.
Voilà.
Oui, voilà. Mais ils avaient quand même trouvé Refury comme éditeur.
Non, mais c'est bien.
Pas non plus rien en tant que.
Et eh ben donc non mais c'est bien parce que entre Wordatro et Bayonnaire, et eh ben c'est bien, on est premier sur la diffusion de drogue dure vidéoludique.
J'ai connu des gens qui ont joué en stream et qui je pense ont plus diffusé le Bayonnaire que cette émission, mais oui.
Et en parlant de drogue vidéoludique, rendez-vous le 15 octobre pour la sortie de Bolix Pit.
On aura l'occasion d'en reparler.
On aura l'occasion d'en reparler quand je serai sorti de cure, évidemment.
Quand tu auras fini le jeu, jamais, parce que c'est un rogue.
Non mais...
Ça se termine pas.
Non, mais ça sent très... J'ai peur.
Faudrait qu'on fasse une intervention, je pense.
Ah oui, je pense que j'ai peur avec ce jeu-là. Je sens que
En fait, on va se dire que si le jeu va sortir, si on t'a pas revu d'ici ton anniversaire, on se posera des questions.
Ouais, je pense qu'il y aura un truc. Moi, le deuxième jeu dont je voulais parler, c'est le jeu Button Man.
Pardon ?
Button.
Comme bouton.
Bouton.
Okay.
Button Man. Qui, un jeu par le studio Styrax, un studio canadien, un jeu qui sortira en 2026, où on joue quelqu'un qui revient de la Première Guerre mondiale, qui est prêt à reprendre la place qu'il occupait avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire homme de main d'un baron de la pègre locale, un dénommé Albert Fisher, dans la ville fictive de Kingsport, qui en fait est la ville de Halifax au Canada, et de façon fictive. Voilà. Pas de bol, le dénommé Fisher se fait mitrailler et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est un jeu d'aventure qui se joue plutôt au pad, qui est très narratif, avec beaucoup de personnages et beaucoup de choix, une ambiance qui fonctionne très bien et surtout des graphismes inspirés des comics de l'âge d'or des années 30-40.
Ok.
Donc, vous voyez, tous les personnages ont un chapeau bien droit, le costume avec des épaulettes démesurées,
des rayures.
Extrêmement droites et tout en rayures. Mmh. Et ce qui est beau, en fait, ce qui est soit c'est en rayures, soit c'est en plein. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu sais, il y a ce grain où je ne sais pas si vous avez déjà vu des comics, comment étaient imprimés les comics de cette époque-là, avec des petits points de couleur, en fait, qui, oui. En étant rassemblés, font la vraie couleur du.
Ça donne cet aspect très, très daté.
Oui,
en fait,
voilà,
et
ça marche vraiment, extrêmement bien. En tout cas, le truc que je trouve intéressant aussi, c'est sur la démo que j'ai pu faire, en fait, l'ergonomie, elle est forcément améliorable. Il y a des combats en façon beat'em up qui sont assez brouillons, mais ce qui est intéressant, c'est que les devs ont annoncé une grosse mise à jour de la démo lors de la Gamescom. Donc, on espère que. Alors, déjà, on dit aux gens qui laisseront à la Gamescom que vous avez bien de la chance. Et on va demander gentiment aux développeurs de la mettre en ligne, cette démo, quand ce sera possible.
C'est comme celle de Silksong ?
Non, non. Alors, moi, je parle des jeux qui existent, excuse-moi. Mais.
Arrêtez, on a vu des images.
Moi aussi, je peux t'en faire des images.
Des images qui bougent.
Non, je te fais un prompt et t'en auras des images de Silksong. C'est quoi cette histoire ?
On va reparler de l'IA. Mais...
Donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'IA, j'ai remarqué aussi que dans la note d'intention de gamedev.ist, et pareil aussi dans l'autre dont on va parler, notamment le Wholesome Célébration, ils disaient clairement qu'eux, ils ne voulaient pas de jeu qui utilisait de l'IA.
D'accord. C'était clairement indiqué dans les...
C'était indiqué. Okay. Je ne dis pas que dans la sélection, il n'y en avait pas, parce que...
J'ai des noms, mais vrai.
Ah non, mais...
Oui,
il y a une différence.
Mais il y avait une volonté, en tout cas.
Voilà.
C'est important.
C'est ça. Mais je le reprécise.
Bien sûr.
Je te laisse présenter le dernier jeu avant qu'on passe au Wholesome Célébration.
Oui, et du coup, ce sera Die in the Dungeon. Die in the Dungeon. Tu connais les roguelike deck builder ?
Je m'en vais. C'est...
Alors non, parce que...
C'est qu'en fait... The Provocation.
C'est pas un roguelike deck builder avec des cartes, c'est un roguelike deck builder avec des dés. Puisqu'en fait, on va jouer avec des dés, tout simplement.
Donc un roguelike...
Dice builder,
voilà.
D'une certaine façon,
effectivement. Ah, c'est Season Sleeper Rogue.
Alors, non, c'est vraiment... C'est plus du Slay the Spire
okay.
Avec des dés. C'est-à-dire qu'on va se retrouver donc contre des ennemis différents, plus ou moins puissants, plus ou moins... Et en tour par tour, on va devoir donc jeter des dés et les placer sur une espèce de quadrillage pour déclencher des synergies, des fois, entre différents pouvoirs qu'on va pouvoir développer aussi, des sortes d'équipements qu'on va pouvoir, qui vont avoir un impact finalement sur les autres dés qu'on utilise. Donc il y a vraiment ce côté vraiment rogue et progression, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer et faire progresser et complexifier nos dés et leurs interactions pour avoir de... T'as des dés d'attaque, t'as des dés de défense, tu as des dés un peu magiques qui permettent d'utiliser des pouvoirs. Enfin, il y a un petit peu différentes façons comme ça de différents dés et différentes interactions possibles. Donc vraiment, c'est la même logique qu'un Slay the Spire sur un jeu de dés. Et donc ça, c'est un petit jeu dans un petit pixel art tout mignon, où on joue une sorte de grenouille qui explore des donjons donc avec ses dés et qui rencontre des créatures un peu cheloues. Mais voilà, vraiment, la logique, c'est maximiser l'efficacité de tes dés en les plaçant aux bons endroits, parce que ça va avoir des bonus qui vont les multiplier, qui vont les additionner les uns aux autres, etc. Et ensuite, tu vas affecter le résultat de ces dés ou à du soin, ou à de la défense, ou à de l'attaque. Et donc vraiment la même logique qu'un rogue, au fur et à mesure tu choisis ton chemin vers la fin du donjon. Donc très addictif, je trouve que ça fonctionne très bien en tout cas, enfin, pour moi ça a très très bien fonctionné. C'est un jeu qui est sorti maintenant, il est sorti depuis un petit moment mais en Early Access. Il est sorti en février 2025, en Early Access, c'est le studio Atico.
Il est prévu une sortie définitive, une date de sortie définitive ou pas ?
Non, j'ai pas vu pour l'instant d'annonce de fin d'Early Access. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un jeu qui est d'abord sorti sur itch.io, donc avec une version gratuite qui est toujours disponible, en fait une version limitée qui te permet de découvrir un petit peu les mécaniques du jeu de façon gratuite. Et c'est un jeu qui effectivement a... j'avais lu un article il n'y a pas très très longtemps sur justement comment utiliser Itch comme, on va dire, laboratoire.
Ok.
Tenter des trucs, tenter des idées, lancer des trucs un peu comme ça. Il avait fait une version, même graphiquement, qui était un peu plus basique, un peu plus simple, moins détaillée, et avec la même logique. Et du coup, le jeu a extrêmement bien fonctionné. Il a été en featuring par Itch.io, qui les met des fois en avant sur sa page YouTube. Ils font des vidéos vraiment spécifiquement pour le jeu et tout. Et du coup, ils ont vu qu'il y avait vraiment une vraie traction. Certains youtubeurs, même des tout petits, hein, mais un grand nombre en tout cas de gens avaient fait des vidéos dessus, parlaient du jeu, avaient fait des commentaires finalement sur la page Itch du jeu. Et du coup, ça leur a fait comprendre en tout cas qu'il y avait carrément moyen de développer le truc et d'aller plus loin encore dans le développement. Ce qui fait que déjà, ça leur a amené Hype Train Digital comme éditeur. Donc déjà, ça leur a amené un éditeur aussi. Et puis, du coup, ils ont sorti le jeu sur Steam. Mais déjà, après avoir validé le concept sur Itch, avec le retour critique et le nombre, finalement, des gens qui l'avaient testé en leur disant « C'est trop bien, j'ai fait une vidéo YouTube, même si elle est vue par 3 personnes. » La multiplication du truc a validé, si tu veux, l'idée et le concept du gameplay, même s'il n'est pas révolutionnaire. Mais très efficace en fait, tu reprends des concepts qui fonctionnent déjà et tu les adaptes, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau de des ennemis finalement, comment les ennemis fonctionnent, etc. Il y a encore de la place je pense pour les roguelike deck builders, même si tu n'utilises pas forcément des cartes. Encore une fois, pour moi les cartes dans les roguelike deck builders c'est un élément, tu peux le remplacer par
merci
plein
pour
de
cette
choses.
Intervention, on va passer à la suite.
Tu peux les remplacer par plein de choses, la carte en elle-même n'étant pas l'élément principal.
C'est tout le temps qu'on avait pour ton intervention, malheureusement. On est obligé de passer à la suite.
Oui, bien sûr. Et donc voilà, Die in the Dungeon.
Il est à combien ?
Il est actuellement. Tac-tac.
Donc gratuit sur
9,74, la version en Early Access.
Voilà, et gratuit
et
une
version limitée,
une version bêta.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu l'idée sur itch.io. Die in the Dungeon, die comme die mourir, et comme évidemment die le dé en anglais, se dit au pluriel.
C'est ça.
C'est un die.
Dice, normalement.
Dice au singulier, die au pluriel. C'est ça le.
Je savais pas.
C'est le jeu de mots de plus en fait.
Okay.
Bref, c'est un jeu extrêmement bien qui, pour l'instant, j'étais en train de regarder, quasiment plus de 2000 reviews sur Steam. Donc c'est que ça, ça a plutôt... ça a pris, ça a commencé à prendre.
Mais c'est vrai que itch.io, ça peut être un bon tremplin. En fait, je connais pas mal de devs qui s'en servent aussi bah, de portfolio, tout simplement. Donc mm-hmm. tous les jeux qui dev dans leur coin, qui n'ont pas forcément d'ambition plus que ça, mais voilà, ils veulent se faire la main, ça sert aussi de portfolio. Mais sinon, effectivement, de faire tester des protos à des gens. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte de est-ce que c'est efficace ou pas, et est-ce que ça vaut le coup de persévérer ou pas avec tel prototype.
Ouais. Mm. Et certains, ça les a motivés justement ouais. à aller encore plus loin. Des fois, c'était des petits jeux de game jam.
Oui, oui, il y a beaucoup ouais. de jeux
de game. Des jeux de game jam, exactement. Des jeux étudiants aussi exactement. Qu'on trouve là-bas. Et, qui, et finalement, l'équipe commence à se rassembler, se dit tiens, on va
plus loin.
Faire,
ouais. C'est ça, on pourrait ouais. parler de The Road to Trizard Dead, mais c'est un autre sujet. C'est un jeu dont j'ai jamais parlé un jour.
Écoute, à partir du moment où tu. Bah, au lieu de c'est vrai
qu'il y a pas de carte.
C'est vrai qu'au lieu de parler de roguelike deck builder, tu pourrais parler de bons jeux, ouais. effectivement.
Et oui, la mauvaise foi est de retour dans cette nouvelle saison.
Alors, vu qu'on est sur le thème, parlons du Wholesome Celebration.
C'est le deuxième Steam Event dont tu voulais
c'est
parler.
C'est ça. En fait, donc c'est un, lui aussi, il a eu lieu entre le 7 et le 14.
Aujourd'hui,
et
ça
aujourd'hui, ça s'est fini à
20h. 19h ou 20h, je sais pas.
Ouais, à 20h. Enfin, de toute façon, laissez tomber, c'est fini.
super.
Néanmoins.
Bravo, c'est bien la peine d'en parler.
Néanmoins, en fait, alors on parle de Wholesome, et le truc, c'est la question qui revient, c'est quoi un jeu Wholesome ?
Effectivement, on l'avait déjà évoqué ici, mais ouais. c'est toujours important de le rappeler.
Et en fait, on résume souvent le Wholesome à des jeux mignons, cosy et un peu doudou. Le truc, c'est que lorsqu'on va voir sur le site de Wholesome Games, qui est donc l'association qui rassemble de toute façon tous ces jeux, tous ces jeux avec
cette... thème, ou toujours un petit peu de voilà. cette approche aussi des choses.
Et ben en fait, ils disent que c'est sur leur rôle, en fait, leur volonté, c'est de changer notre perception de quels jeux vidéo sont pris au sérieux. Parce que, en fait, pendant des années, les titres les plus acclamés, les titres qu'on retrouve au Game Awards, par exemple, qui sont célébrés dans la presse, ce sont les jeux aux thèmes les plus sombres. Qui sont censés être sérieux, même si souvent ils ne le sont pas, tout simplement. Et en fait, le truc, c'était le but de Wholesome Games, c'est de mettre en avant le fait qu'il existe tout un autre univers de jeux vidéo qui sont porteurs d'espoir, qui sont dotés d'une narration riche, d'un gameplay innovant et d'une esthétique brillante. Et que le but, c'est de mettre en valeur la diversité d'expériences que les jeux peuvent offrir aux joueurs, et pas seulement par le côté gritty, edgy et sanglant, tout simplement.
Et oui, parce qu'on n'est pas obligé de tuer dans les jeux vidéo pour prendre du fun.
C'est
voilà.
ça.
C'est pas une obligation.
C'est pas une obligation. Et je sais que... enfin, que ça soit ici dans cette émission ou quand on parle à d'autres gens, notamment chez Presse F5, c'est un discours qui se répand de plus en plus, le fait que on n'a pas forcément d'un objectif de génocidaire pour s'amuser. Sauf pour Lupus, qui est quelqu'un de particulièrement
Surtout si tu mets des personnes âgées, ça y est.
Ah non, mais là...
Ça, il l'élimine.
Ah bah ça. Parmi les jeux mis en avant, hein, alors pour le coup, peu de réelles nouveautés, vu que beaucoup de jeux avaient été présentés lors d'une conférence Wholesome Direct début juin, hein, pendant le feu E3. Hein,
c'est presque étonnant, finalement, qu'il y ait un Wholesome Celebration maintenant.
Je pense que c'est pour compenser le fait qu'ils ne peuvent pas participer directement à la Gamescom.
D'accord. Et du coup, ils prennent l'espace médiatique avant la Gamescom.
C'est ça. Ouais. Parce que après, en général, la Gamescom, les gens sont épuisés. Il y a pas trop de place après, entre guillemets. Et d'ailleurs, on vous redirige vers le résumé de la conférence qui avait été rédigée par Presse F5 à l'époque, directement sur le site pressef5.fr.
Vous pouvez aussi retrouver les replays de cette émission.
Exactement.
C'est ça que tu voulais dire.
Oui, peut-être. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais tu vois, j'ai mis remercier quelqu'un et j'ai bugué. C'est fou, quoi.
On en reparlera dimanche.
Je n'y arrive pas. Et c'est pour ça que, vu que je n'y arrive pas, Bettina, quel est le premier jeu dont tu voudrais nous parler parmi les 2-3 jeux que tu avais dans ta besace?
On t'a vu.
Oui, c'était très dur de choisir. Il y en a plein qui sont absolument géniaux, qui étaient dans cette liste. Donc j'ai choisi de vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Whimside, donc Whimside. Parce que en fait, son développeur avait proposé le jeu à Indie Game Lyon, donc l'édition de cette année, mais il s'était inscrit trop tard. Mais j'ai quand même pu tester le jeu. À l'époque, c'était une build donc, qui était quand même assez early, je pense, par rapport à ce qui est devenu le jeu. J'imagine qu'il y a eu plein de modifications depuis. Donc c'est un petit jeu incrémental, fenêtré, donc qui se positionne en bas de son écran. C'est un needle game de collection de créatures mignonnes, on va dire, qui a été développé sur Godot. Du coup, voilà, j'ai des petites infos comme ça, vu qu'il il m'avait proposé le jeu il y a tout un questionnaire, en fait, quand on propose un jeu à Indie Game Lyon, où on pose plein de questions pour essayer de connaître plein de trucs sur le jeu. Voilà, c'est pour ça que je sais des fois sur quel moteur, enfin, je sais sur quel moteur sont développés les jeux.
Mais c'est intéressant, justement, de parler de Godot. Un de ces quatre, je pense qu'on fera, on fera une émission globalement sur quels moteurs sont utilisés et pourquoi. Parce qu'on a parlé de Unity il y a quelques temps.
J'en avais parlé très vite fait la semaine dernière, ou il y a deux semaines dans mon émission, parce qu'il y avait eu une Game Jam de la Game Makers Toolkit Game Jam. Donc une Game Jam où il y a plusieurs milliers de participations. Ils avaient fait un tableau, un camembert en fait, en disant que depuis ces dernières années, Unity s'était fait bouffer complètement par Godot, qui remontait énormément en termes de moteur utilisé.
Pour plein de raisons.
Pour plein de raisons, dont on avait déjà évoqué ici. Mais
voilà, et puis il faudrait comparer ça par rapport aux jeux qui sortent et qui sont édités et qui sont disponibles,
réellement,
etc.
Réellement, ouais,
voilà.
Là aussi,
c'est pour ça que je dis qu'il y a super intéressant. Mais pardon.
Donc son développeur qui s'appelle Todd Zillart, de son pseudo évidemment, c'est pas son nom usuel dans la vie de tous les jours.
Ça déchire.
Quand tu signes comme ça en arrivant.
Donc il avait envoyé, comme je le disais, une build en janvier, donc c'est à ce moment-là que j'avais testé le jeu. C'est pas du tout ma cam, probablement parce que j'ai un TDAH et que du coup le moindre truc qui me perturbe, c'est un enfer et je ne peux rien faire en même temps. Donc je comprends pas le concept des idle games qu'on laisse tourner à côté de toi. Enfin, pour moi c'est un non-sens, mais...
Qui viennent te prendre de la place sur ton écran alors que toi ça te prend de l'attention finalement.
Ouais, non mais je comprends pas.
Mais par contre c'était super choupi, donc un petit jeu cosy, relaxant, avec un pixel art chatoyant. Le concept donc c'est de personnaliser son refuge, donc avec plein d'éléments de déco, d'ameublement, etc. Il faut aller, donc comme je le disais, il faut, alors c'est pas vraiment de la capture, enfin il faut, ouais si on va dire ça comme ça, de capturer donc des petites, comment il appelle ça, des wimlings, donc des créatures dans le jeu. Et on peut les fusionner pour créer de nouvelles espèces, ça débloque des nouveaux biomes et des nouvelles décos, etc. Donc voilà, c'est très sympa, c'est 5,18€ si c'est votre cam, voilà.
Ok,
super, merci.
Tu veux enchaîner avec quelque chose ?
Oui, j'enchaîne assez rapide avec un jeu qui s'appelle A Week in the Life of the Asocial Giraffe.
Et j'ai fait la démo.
Trop bien. Un jeu de Quail Button qui a, selon moi, un seul défaut, c'est que sa date de sortie est to be determined. Mais, parce que je voudrais y jouer tout de suite, ça avait l'air trop bien, la démo est excellente. C'est un petit jeu de casse-tête, en fait. On va devoir faire en sorte de ne jamais parler à personne.
J'aime bien.
Ah, voilà. Je savais que j'avais une cliente.
Voilà, ta vie au quotidien. Ouais, voilà, c'est parfait. Nickel.
Notre girafe, en fait, nous, on est une girafe asociale. En fait, elle est dans des situations du quotidien, comme aller à la vrille, prendre une photo d'identité, faire des courses, s'entraîner à la salle de sport.
Prendre l'ascenseur,
effectivement. Et on va devoir à chaque fois user de stratagèmes pour éviter de parler à qui que ce soit, sous peine de voir sa tête littéralement exploser. Sous ces dehors de jeux mignons avec ses petites énigmes et ses animations sympas, c'est surtout, je trouve, un bon moyen de sensibiliser aux problèmes de l'anxiété sociale dans ses formes les plus handicapantes. Même si on ne veut pas se former à ça globalement ou se sensibiliser à ça, un bon petit jeu de puzzle très, très fun et qui se joue très bien.
Pour moi, c'est un Mac Pixel, mais en mignon.
C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire ? Vous connaissez Mac Pixel ?
Très bienveillant.
Okay, ouais. Donc Mac Pixel, c'est l'inverse. C'est un truc horrible avec des situations dégueulasses.
Enfin, c'est tout détruire.
C'est, voilà. Bref. Mais c'est un peu la même logique.
Donc c'est ce jeu-là. Il était pendant le Wholesome Game Celebration. Il me semble qu'il y avait eu une vidéo de ça pendant le Wholesome Direct. Il me semble.
Oui. Je l'avais vu à ce moment-là.
Mais on n'en avait pas reparlé ici. Donc je trouve que c'était une bonne idée d'en reparler.
C'est une bonne idée tout court.
Je t'en prie, Romain.
Alors je vais parler de Many Nights a Whisper. La Déconstructime, le studio espagnol qui aborde des thèmes avec leur sensibilité, leur efficacité, leur violence, leur enfin voilà, c'est des gens qui savent écrire, qui savent aborder les choses, des sujets très intéressants et très très profonds. Enfin, moi j'ai découvert avec Gods Will Be Watching.
Ok,
c'est un jeu en pixel art qui est enfin qui est en gros des dilemmes moraux en permanence. Tu fais que être confronté à des dilemmes moraux. Est-ce que tu y a un mec qui est en train de se faire torturer? Qu'est-ce que tu fais pour que ça s'arrête? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu tiens le coup malgré la torture? Enfin bref, tu as que des situations comme ça. Comment tu fais quand tu es dans un groupe de personnes et que il faut survivre? Qui tu abandonnes ou est-ce que tu essaies de faire survivre tout le monde parce que c'est voilà. Est-ce que tu restes humain si tu sauves pas tout le monde? Enfin bref, c'est des jeux qui abordent ce genre de sujet. Toi, tu avais joué à Silverhood.
The Red String Club.
The Red String Club, et tu as Silver. Comment c'était le nom, Sister Messi?
Ah, The Cosmic Wheel Sisterhood.
Je voilà. veux absolument le faire.
Alors,
voilà, tu avais joué à ce jeu.
Rapidement, Red String Club, très très bien, plutôt ambiance point and click, cyberpunk.
Ouais, un petit peu classique, mais oui.
Plus classique. Pas point and click avec des vrais énigmes, mais plutôt des jeux qui sont très poussés, notamment un jeu de bar qui vous fera penser peut-être à du Valhalla ou à Coffee Talk. Et puis surtout Cosmic Wheel Sisterhood, qui est juste un putain de chef-d'œuvre. Voilà,
Et globalement, la déconstructive, elle est capable de faire ce genre de choses. En fait. Régulièrement, elle te sort des trucs qui te cassent le crâne.
C'est espagnol, c'est ça.
C'est un studio espagnol, effectivement, avec Paula, la musicienne de l'équipe, qui stream régulièrement, enfin qui streamait. Je sais plus si ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais sous le nom de Fingerspit. Bref. Une équipe que je trouve très talentueuse dans tous les domaines, que ce soit musicaux ou même artistiques globalement, et surtout à l'écriture. Ils ont fait un grand nombre de jeux gratuits de point and click en fait en pixel art sur itch.io, sur leur page itch.io, qu'ils ont ensuite vendu sous une compilation qui s'appelle Essays on the
Je sais plus le nom, j'y ai pas joué.
Bref, ils ont fait beaucoup de choses, et leur dernier jeu en date, Many Nights a Whisper, qui est sorti je crois en juin, quelque chose comme ça.
Alors, très honnêtement, moi, je ne l'ai pas reconnu tout de suite parce que...
C'était leur style ?
Ouais, parce qu'en fait, par rapport au style graphique, où les jeux étaient très pixel art, même
un
si Ghost of the Watching n'est pas...
pixel art.
C'est pas, non, je veux dire, ce n'est pas du tout le même pixel art que sur Cosmic Wheel.
Bien sûr. Mais du coup, là, effectivement, ils sont un peu sortis de ça.
Voilà.
Il y a encore du pixel art.
Du coup, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, je ne savais pas que c'était...
Il y a encore un peu de pixel art, mais le principe, ce n'est pas compliqué. On a pris quelqu'un, on lui a dit, bah voilà, t'as 10 ans, ok, pas de problème. T'as 10 ans pour te préparer, tu dois, dans un univers un petit peu magique, tu dois, le jour prévu, utiliser une fronde pour jeter une boule de feu dans une grande vasque qui est à des centaines de mètres. Et si tu allumes cette vasque, le jour du lancer, le jour de la cérémonie, dans 10 ans, t'as 10 ans pour te préparer, pendant 10 ans on va t'entraîner, si tu allumes cette vasque, tous les vœux que les gens auront faits pendant ces 10 ans vont se réaliser. Que ce soit changer la couleur du ciel, que ce soit faire en sorte que quelqu'un que t'aimes pas tombe amoureux de toi, que ce soit voilà, des sujets extrêmement légers comme extrêmement forts, abolir les religions, abolir le travail, abolir... Enfin, tu as vraiment des gens en fait, qui viennent avec des demandes des fois extrêmement individuelles, ressusciter mon chien parce que je l'aimais. Enfin, tu as vraiment des situations extrêmement personnelles et des situations qui vont impacter le monde entier. Et en fait, tu as la responsabilité de tous ses vœux pendant 10 ans, en même temps que ton apprentissage, parce que c'est toi qui vas décider quel vœu tu valides, quel vœu tu acceptes. Les gens viennent te voir le soir, ils t'exposent leurs vœux, ou tu acceptes leurs vœux, ou tu le refuses. Si tu les acceptes et que tu réussis ton coup, le vœu sera exaucé. Si tu réussis pas ton coup, le vœu ne sera pas exaucé. Voilà la responsabilité que tu as en tant que personne qui aurait été formée pendant 10 ans pour te préparer à se lancer de fronde, de boule de feu avec une fronde.
Ça me casse la tête parce que je...
Complètement.
Ça me casse la tête parce que je veux pas spoiler Cosmic Wheel Sisterhood, mais les thématiques, elles suivent.
Bien sûr.
Totalement.
Ouais.
Bien sûr.
Totalement.
Et ils ont réussi, dans un jeu qui dure une heure, qui vaut 3 euros, à te mettre tous ces dilemmes moraux.
Je crois qu'il a 2 et quelques.
Il a 2,99 de base et il a 2,35 régulièrement en promo. Je l'ai eu à 2,35 en promo.
Non mais prenez-le, vous n'avez aucune
idée. Il est incroyable. Enfin, tu t'entraînes toi-même en fait à tirer avec cette fronde. Tu vises, etc. Tu t'entraînes, tu essaies d'apprendre là, parce que tu n'as pas de viseur. C'est ça aussi, que tu dois te créer tes propres repères visuels, corporels, au niveau du déplacement du personnage et tout, pour réussir ton coup ou pas. Et tu as vraiment cette logique. À la fin, bah, tu tires, tu envoies une seule boule de feu. Et le jeu s'arrête, et le jeu a évidemment prévu de supprimer ta sauvegarde au moment où tu jettes le, où tu tires le dernier coup. Voilà, donc tu assumes ton geste. Et l'histoire le prend évidemment en compte. Le but du jeu, c'est pas de te raconter une histoire où tu es le héros, où tu gagnes, où tu... Et finalement, par rapport au vœu que tu as accepté ou pas, est-ce que réussir ton geste, c'est pour aller dans le bien de l'humanité, pour aller dans le bien du monde entier, ou pas? C'est énormément de questions, les questionnements sont incroyablement profonds. Vraiment, il m'a retourné, ce jeu. Il m'a clairement retourné, parce que j'ai lancé ma boule de feu, et le jeu m'a expliqué les conséquences de ce que j'avais fait. Ouais. Et une des conséquences de ça, c'est aussi de rendre la personne que tu incarnes, qu'on a pris un jour de ses 10 ans, et qu'on a dit, on te libérera 10 ans plus tard, quand tu auras réussi ou pas, quand tu auras fait ce jet, la personne est libre après ce jet. Et elle redécouvre la vie aussi. Enfin, tu as énormément d'éléments, énormément de questionnements sur plein de choses, comment tu veux faire fonctionner une société,
etc. Est-ce qu'il y a une localisation française ?
Non, ah, il est en anglais.
C'est souvent le cas avec leurs jeux, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait aussi.
Oui. Alors,
même si là, au niveau du texte, c'est un poil plus léger que la plupart de leurs autres jeux par sa durée. En fait.
Okay. Wrestling Club avait été full anglais, dans mon souvenir. Par contre, Cosmic Will ou Sisterhood avait une localisation.
Ouais. Okay.
Une très bonne localisation qui, d'ailleurs, intégrait notamment du... du langage non-genré, pardon.
Ok.
Et c'est d'autant, et pour le coup, pour ce jeu-là, c'est très important.
Oui.
Ok. Mais du coup, voilà, moi j'avais écrit un article
et va y jouer honnêtement. Enfin, vu tout ce que tu me dis, Cosmic Sisterhood.
J'ai fait un article sur
Bettina, qu'est-ce que tu fais encore là? Va y jouer tout immédiatement.
Il nous reste 5 minutes.
Oui.
Vas-y.
Alors,
Bettina.
Où est-ce qu'on va?
Vas-y Bettina.
Je tiens à préciser que j'ai remarqué que vous trichiez, c'est-à-dire que vous profitez de vos interventions pour parler de plusieurs jeux en même temps. Vous pensiez peut-être que j'avais pas remarqué.
Bienvenue dans cette émission.
Voilà. C'était ça le piège de. Il faut que cette émission soit la tienne parce que nous on en a fait la nôtre vraiment très très fort.
Mais tu as raison sur ça. Du coup on va te laisser le temps de parler maintenant et on verra ce qui nous reste à la fin.
Ok, chouette. Très bien, ça me va. Donc je vais vous parler de Terranil. Alors ça a été très dur, j'ai longuement hésité aussi à vous parler de Minami Lane, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie à la petite review que j'ai écrite il y a une semaine sur mon Instagram, c'est Khaz, donc K-H-A-H-A-Z-Z, sur Insta. J'écris des petites reviews de jeux indés qui m'ont plu, et donc voilà, vous pourrez savoir ce que j'ai pensé de Minami Lane, qui est très bien, soit-il en passant.
Okay, on mettra le lien vers dans le replay de l'émission.
Oui, on mettra le lien vers ton Insta et vers ton Twitch, Romain aussi.
Mais du coup, donc, je me concentre sur Terranil. Alors pareil, j'avais déjà écrit une petite review dessus, mais c'était il y a longtemps, et je l'ai relu, elle est naze, donc je préfère vous en parler. C'est un jeu de stratégie dont le but est de reconstituer des écosystèmes. Donc c'est plutôt l'inverse de ce qu'on a l'habitude. C'est-à-dire qu'en général, on va plutôt aller choper des ressources pour fabriquer des trucs. Là, c'est l'inverse. Il faut donc reconstituer la faune et la flore. On commence d'abord par ramener la vie en dépollant les sols avant d'inséminer des végétaux. Et puis progressivement, si on fait ça bien, les animaux reviennent, donc reviennent peupler les environnements. Donc le but, c'est de ramener l'harmonie avant de partir en effaçant toute trace pour laisser le cycle de la vie prendre le relais. Et cette étape est tout aussi importante que le reste. C'est en fait la troisième phase du jeu, la phase où on doit supprimer, effacer, supprimer et recycler ces infrastructures pour partir ensuite et s'assurer que l'écosystème est viable une fois qu'on sera parti. Donc il faut s'assurer que les animaux sont totalement satisfaits de leurs environnements. Je suis trop refaite depuis quelques jours, c'est que j'avais pas vu qu'il y avait une mise à jour qui s'appelle Heatwave, qu'on peut traduire donc par canicule ou vague de chaleur.
Bizarrement en ce moment.
Voilà.
Je vois pas pourquoi.
Et qui ajoute donc des nouveaux niveaux avec 5 nouveaux biomes, 13 nouvelles espèces animales et 10 nouvelles structures. Et donc là, voilà, ça fait 2 après-midi que je suis à fond dessus. Je suis trop contente. Et du coup, il y a une vraie rejouabilité en fait, parce que les maps sont générées procéduralement. Donc vraiment, de temps en temps, avant qu'il y ait la mage, ça m'est arrivé de le relancer une petite partie, genre quand j'ai un trajet en train par exemple. C'était trop bien. Il est à Il est à 25 euros, oui c'est ça.
Il était à 10 euros jusqu'à pendant la promo du Wholesome Games Celebration, mais qui a fini.
C'est trop tard maintenant. Voilà. Donc il est à 25 euros, mais en vrai ça vaut le coup, comme je disais, il y a une vraie rejouabilité. Il est extrêmement satisfaisant, vraiment je l'adore.
À noter que c'est un jeu qui est également inclus dans dans la liste de jeux qui sont dispo via Netflix.
Okay.
Donc si vous avez un téléphone, toujours.
Ils l'ont pas enlevé.
Oui, okay.
De Netflix, c'est ce qu'ils ont enlevé, mais
Ils ont viré plein de trucs, notamment tous les Monuments de Valais, et c'est un scandale.
Parce ils sont sur Steam maintenant, mais bon.
Mais bon, Monuments de Valais, c'est... bref. Terranil, je l'ai téléchargé sur mon téléphone et justement, je voulais essayer. D'ailleurs, une question par rapport à ça, est-ce qu'il y a un côté comme dans les RTS ou ce genre de choses, est-ce qu'il y a un côté où il faut il y a des limites de temps, des contraintes, ce genre de choses?
Non, il n'y a pas de limite de temps en fait. On peut prendre tout le temps de la réflexion pour poser ces infrastructures, voire même ces conseillers. Déjà, je vais te donner le meilleur tips dans le jeu, c'est qu'il faut absolument viser le fait de débloquer la pluie, faire en sorte qu'il y ait à nouveau de la pluie, parce que ça va laver les sols et ça aide énormément. Et
t'as pas la méthode là en ce moment en vrai là On l'attend.
Et du coup, donc non, il y a pas de timing en fait. Ça vraiment, justement, à partir du moment où tu débloques la pluie, ça vaut le coup justement d'attendre qu'elle tombe des fois avant de relancer des trucs, avant de refaire.
D'accord.
Des trucs.
Donc c'est un jeu légitimement chill, quoi.
Oui, vraiment.
Okay. Parfait.
Bref, j'ai envie de vous parler plus longuement du gameplay, mais on n'a pas
du tout
le temps.
Mais qui t'en empêche, voyons.
Le temps. Le temps. De la même façon que je ne pourrais pas parler de Is This It Taken, du petit studio espagnol Petit Petit,
si tu veux,
qui est incroyable et que j'ai déjà joué en stream, et pareil, on va en reparler avec Lupus par écrit sur PSF5.
Mais je pense que ça vaut le coup d'en reparler bientôt, parce que je pense que je ne saurais pas résister au bout d'un moment, que je me le paierai et que je vais me le manger celui-là aussi.
Et c'est quel jeu auquel tu n'auras pas le temps de parler?
Wudo.
Okay.
Qui est un jeu en fait de coloriage en 3D, sauf que ce sont des dioramas faits avec des petits jouets en bois.
T'as l'air mignon.
Le gameplay est minimal, mais c'est d'une mignonnerie absolument criminelle. Voilà.
Okay. Okay. Et bah écoute, on est arrivé au bout. Ça va être le moment de vous remercier déjà.
Oui.
Pour toutes ces interventions.
Merci à toi, Romain.
On est content de t'avoir laissé le temps de nous présenter tes quatre jeux.
Ouais.
Alors que Xavier en beaucoup trop parlé, on n'a pas eu le temps
Scandale. un jour, je ferai les décomptes. Non, parce que bon, la calomnie, ça suffit là.
Et donc, on se retrouve bientôt.
Voilà. Alors moi, à titre personnel, je suis dispo la semaine prochaine, mais on verra.
Moi aussi.
On verra. Écoute, on verra après si c'est normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais en tout cas très bientôt. Voilà. On remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canu pour l'accès au studio. L'émission de toute façon sera disponible dès demain sur
8h il paraît, j'ai entendu parler d'un truc comme ça.
Punaise. Dès demain donc sur Presse F5 il y aura dans la description notamment les liens vers la page du début festival, vers le Wholesome Game Celebration,
vers les jeux dont on a parlé,
le Twitch de Ruvon, c'est Instagram ou
oui.
Ou plus que Instagram, donc l'Instagram de Kahaz. Et moi, il y aura rien. Ben voilà, bien. Parce que je ne fais rien de ma vie à part faire chier les gens.
Exactement.
Exactement.
C'est un job à temps plein.
Mais tu fais ça tellement bien, avec tellement d'assiduité.
Je suis le meilleur. À la prochaine.
À bientôt. Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée.
Ciao.